Bonsoir à vous, bienvenue à l'écoute de Radio France Internationale, c'est Afrique Soir, deuxième édition, 20h30 ici à Paris et 19h30 en temps universel.
Sylvie Berruet.
La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo et l'inquiétude des pays voisins. Le Burundi met en garde contre le risque d'un embrasement régional. Si l'est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas la paix, a déclaré le président Évariste Ndayishimiye sur sa chaîne YouTube. Et puis l'Ouganda, nous verrons quelle est sa position dans ce journal. Au Soudan, une cinquantaine de morts dans le bombardement d'un marché du quartier d'Omdurman dans la proche banlieue de Khartoum. L'attaque a été attribuée aux forces de soutien rapide, les FSR. Comment convaincre les pays d'Afrique d'investir davantage dans l'agriculture? À Kampala, mi-janvier, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, a encouragé les gouvernements à investir au moins 10% de leur produit intérieur brut dans le secteur. Des milliers de manifestants ce matin à Kananga, le chef-lieu de la province du Kasaï central dans le centre de la République démocratique du Congo. Des habitants, des membres et des cadres de la coalition au pouvoir emmenés par le parti présidentiel UDPS ont manifesté pour exiger des sanctions contre le Rwanda, soutien du M23 et à la tête de ce cortège, le député du parti présidentiel John Kabeya, ancien gouverneur de cette province.
La détermination était forte dans notre province du Kasaï central. Je me suis retrouvé devant plus de 20 000 personnes qui sont descendues sur terrain pour manifester leur mécontentement. Crier tout haut et montrer à la face du monde, condamner ce qui se passe à l'est de notre pays, pour que la communauté internationale puisse prendre des mesures sérieuses par rapport à les agresseurs. Et Rwanda derrière M23, ça fait pratiquement 31 ans que cette population souffre. Trop c'est trop. On en a marre. Dernièrement, il y a la ville de Goma qui est tombée. Il y a des enlèvements. Il y a même des cadres de l'UDPS, même certains combattants de l'UDPS qui sont enlevés nuitamment par les Rwandais et les mêmes M23. Nous devons être tous derrière les chefs de l'État, derrière le FRDC et Oizolendo. J'ai demandé à notre population de se faire enrôler massivement dans l'armée. La jeunesse est disponible. Et de toi, j'ai demandé à notre peuple d'être uni. Il y a même les membres des partis politiques de l'opposition qui ont marché avec nous aujourd'hui. C'est-à-dire la question de l'Est ne divise personne et nous sommes tentés de nous battre jour et nuit jusqu'au moment où nous avons foutu de ces gens-là dehors.
John Kabeya, des propos recueillis par Pascal Moulégois. Alors ce conflit dans l'Est de la République du Congo est scruté de très près par les pays voisins. Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, dit qu'il craint une guerre régionale. Dans une vidéo posté sur sa chaîne YouTube, il affirme que ce conflit est une menace pour toute la région, du Burundi à la Tanzanie, à l'Ouganda en passant par le Kenya. L'armée ougandaise a de son côté annoncé dès vendredi qu'elle allait renforcer ses défenses dans l'est de la RDC, où elle est présente depuis 3 ans dans le cadre d'une opération de lutte contre les rebelles ADF menée avec les forces armées régulières. Mais dans le même temps, l'Ouganda a été accusée à plusieurs reprises par l'ONU de soutenir le M23. Et cette annonce est donc très ambiguë. Écoutez les explications de Jason Stearns, qui est fondateur du groupe de recherche sur le Congo à l'Université de New York.
Je pense qu'elle est quand même inquiétante dans le sens que l'Ouganda est dans une position compliquée et ambiguë. D'un côté, l'Ouganda veut avoir des bonnes relations avec son voisin. Et en même temps, l'Ouganda, une partie au moins des élites politiques ougandaises, veulent surveiller un peu ce que leur voisin du sud, le Rwanda, est en train de faire en RDC. Il y a aussi des gens en Ouganda, notamment le fils du président, Muhoozi, qui soutiennent le M23 assez ouvertement. Donc je pense que l'Ouganda, même à l'interne, est un peu divisé par rapport à ce qui est en train de se passer en RDC. Il n'y a pas aussi de clarté du gouvernement congolais. On n'a pas entendu de leur côté si ce renforcement des Ougandais a été accepté de leur côté, est-ce qu'ils vont déployer des troupes et où. La question qu'on se pose, c'est l'M23, il pourrait aussi aller au nord. Et s'ils vont au nord, c'est effectivement la zone où les Ougandais sont déployés. Alors si les Ougandais prêtent main forte aux rebelles M23, ça serait très difficile pour le gouvernement congolais de résister.
Jason Stearns, le fondateur du groupe de recherche sur le Congo à l'Université de New York avec Florence Maurice. Et puis à Goma, où depuis dimanche, les combats ont fait au moins 700 morts, 2800 blessés selon un bilan provisoire annoncé hier par l'ONU. La vie reprend peu à peu son cours. Des choses vues sur les marchés de la ville, c'est avec Alexis Guilleux.
Sur le marché, des femmes en pagne accueillent les clients. Certaines vendent de l'huile, d'autres des légumes. Mouisa Alice dit avoir bravé sa peur pour chercher de quoi nourrir ses enfants.
Je vends du sombé car mes enfants risquent de mourir à la maison à cause de la faim. Aujourd'hui, il y a des clients, mais ils disent ne pas avoir d'argent. J'ai peur quand il y a trop de bruit. Ça me rappelle les balles qui ont été tirées.
Un peu plus loin, au marché à Laline, la présence de commerçants crée des embouteillages. Toumaini et Luanda sont venus de Minova pour vendre leurs produits.
Nous avons apporté du sombé pour le vendre et essayer d'améliorer nos conditions de vie. Quand il y a une guerre, on reste à la maison sans emploi. Alors maintenant, c'est une chance de pouvoir retravailler un peu. J'achète du sombé que je viens revendre ici.
Je vends des bananes plantain de Minova. Un régime, je le vends entre 25 000 et 30 000 francs, soit autour de 10 euros. Je viens de passer près de 2 ans sans pouvoir faire mon commerce. Je vivais dans un camp sans travailler et je dormais même par terre.
Les routes principales d'approvisionnement de Goma sont désormais rouvertes.
Alexis Guilleux. Et puis en France, à Paris, la capitale, près de 1500 manifestants ont défilé ce samedi pour dénoncer le manque de soutien international face à l'offensive du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda dans l'est de la RDC. Les manifestants, pour l'essentiel des membres de la communauté congolaise, ont marché de la place de la Bastille en direction de celle de la Nation. Au Soudan aujourd'hui, un marché du quartier d'Omdurman dans la proche banlieue de Khartoum a été bombardé selon le ministère de la Santé soudanais. Cette attaque attribuée au FSR, les forces de soutien rapide, a fait 54 morts et 158 blessés. Elle a semé la panique, cette attaque, dans l'un des derniers hôpitaux qui fonctionnent encore dans la ville. Le bilan, on le disait, est encore provisoire, alors que des négociations entre les belligérants sont au point mort et que les combats pour le contrôle de Khartoum se poursuivent, Paul Langerie.
Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de blessés et les sacs mortuaires qui s'entassent dans la cour d'un hôpital. Selon des témoins cités par l'AFP, les obus provenaient de zones contrôlées par les FSR à l'ouest. Le marché Sabrine étant bondé ce matin, le bombardement a aussitôt provoqué un afflux massif de blessés vers l'hôpital Al-Nao. D'après une source sanitaire toujours cité par l'AFP, la structure manque aujourd'hui d'unités de sang, de linceuls ainsi que de brancards pour évacuer les blessés. En parallèle, 2 civils ont été tués dans un raid aérien, cette fois-ci dans une zone tenue par les FSR au sud de Khartoum, a constaté le réseau local cellule d'intervention d'urgence tenue par des bénévoles. La semaine dernière, l'armée soudanaise a en effet lancé une vaste offensive pour libérer certains quartiers du joug des FSR, commandé par le général Mohamed Hamdan Daglo, alias Emeti. Point d'orgue de cette reconquête, le retour des militaires dans leur quartier général, 17 mois après l'avoir abandonné. Dans une rare apparition vidéo, le chef des FSR a affirmé que lui et ses hommes ont déjà expulsé les forces loyalistes de Khartoum et qu'ils les en expulseront à nouveau.
Et puis en bref, les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre le groupe État islamique en Somalie. C'est le président américain Donald Trump qui l'a annoncé aujourd'hui. Des frappes qui visaient un responsable du groupe djihadiste dont on ignore l'identité. Un homme qui avait planifié des attentats et d'autres actions terroristes. Pas davantage de précision. L'économie, comment convaincre les pays d'Afrique d'investir davantage dans le secteur de l'agriculture? À Kampala, en Ouganda, mi-janvier, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a encouragé les gouvernements d'Afrique à investir au moins 10% de leur produit intérieur brut dans ce secteur. Et depuis, l'Agence des Nations Unies a lancé une vaste campagne de sensibilisation dans plusieurs pays africains, à Abidjan, Bintadiagne.
Principal objectif de cette visite, voir comment booster le système agroalimentaire, avec en tête l'idée de mobiliser plus d'investissements dans le secteur agricole. Que ce soit pour le riz, le maïs ou le manioc, la FAO préconise avant tout une politique cohérente pour que les pays produisent eux-mêmes des semences. Docteur Robert Gwantoue, le coordonnateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest.
Il faut que le système semencier fonctionne et que ça soit durable. Et donc l'investissement dans les semences, l'encouragement du secteur du privé national et le plus souvent c'est des coopératives de producteurs. Il faut que ceci soit fait. Une bonne politique semencière qui permet aux pays de faire des facilités à ceux qui veulent s'installer pour faire des semences.
Ce responsable préconise par ailleurs des programmes d'irrigation plus performants et une mécanisation du système agricole. De son côté, la Côte d'Ivoire a notamment mis l'accent sur la création de 9 pôles agricoles sur son territoire, un projet inclus dans le cadre du PND, le Plan National de Développement, qui doit être renouvelé et complété pour les années 2026-2030. Bintadiane Abidjan, RFI.
Enfin, les sports avec un combat de titans ce soir en MMA. Les arts martiaux mixtes, Nassourdine Imafof affronte ce soir en Arabie Saoudite le Nigérian Israël Adesanya. On y reviendra dans la dernière édition d'Afrique Soir à 22h30 en universel. Bonne soirée.